Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. L'épisode du jour est très particulier car il ne va pas s'appuyer sur un article ou un reportage paru chez un de nos partenaires. Il est un hommage rendu à un homme qui aura marqué le journalisme en Nouvelle-Aquitaine. Joël Aubert a disparu la semaine dernière. Il était le fondateur d'Aki.fr, ancien directeur de la rédaction de Sud-Ouest. Il aura marqué des générations de consoeurs et de confrères par sa bienveillance et son amour du journalisme, par son caractère visionnaire aussi, lui qui a monté le deuxième pure player d'information de France. Nous allons vous parler de Joël avec quatre de ses collaboratrices et collaborateurs, de ce qu'il appelait sa petite équipe d'acquis. Bonjour Julie Allot.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable administrative et commerciale chez acquis. À votre côté, Johan Denechaud, bonjour.
Bonjour.
Johan, vous êtes journaliste pour acquis.fr. Bonjour Solène Méric.
Bonjour Jean.
Vous êtes de l'aventure acquis depuis plus d'une décennie et vous en êtes rédactrice en chef. Et enfin, bonjour à vous Julien Privat.
Bonjour.
Vous êtes également journaliste pour acquis. Je précise que vous vous situez toutes et tous à un endroit différent de notre région et que cet enregistrement se déroule à distance. Et je vous remercie énormément d'être avec nous en dépit de l'émotion qui est la vôtre, évidemment. Avec vous, nous allons donc parler de Joël, mais puisque ce podcast est dédié aux médias de la région et à celles et ceux qui les font, nous allons aussi tenter de comprendre l'importance de son travail et la manière dont il a influencé nombre de journalistes en Nouvelle-Aquitaine. Mais d'abord, Joël Aubert, c'était une silhouette, une gueule, comme on dirait au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Alors, Joël Aubert, effectivement, c'était une grande silhouette élancée. C'était un béret qu'il avait très souvent vissé sur la tête. Joël Aubert, c'était aussi une moustache avec laquelle on pouvait un peu décrypter ses émotions. Quand il était un peu triste ou déçu, elle tombait, mais ça c'était pas souvent, c'était plus souvent un petit frétillement parce qu'il était content et enthousiaste de ce qui se passait autour de lui. Et c'était aussi des yeux rieurs et chaleureux et bienveillants qu'on pouvait voir derrière ses lunettes. Voilà, ça c'était Joël Aubert.
La famille de Joël était originaire de l'île de Ré, du côté de sa mère, et de Cavignac, en Gironde, où il résidait, du côté de son père. Dans quel milieu a-t-il grandi et est-ce que vous savez comment lui est venu cet amour indéfectible pour le journalisme ?
Le milieu dans lequel il a grandi était bien sûr très éloigné du journalisme. Il a grandi à Cavignac, surtout. Il arrivait à l'âge de 6 ans à Cavignac. Donc voilà, dans un territoire rural, un petit village, des vignes, des vergers. Un papa qui était passionné de greffes, que ce soit des fleurs ou des pommiers particulièrement. Donc voilà, bien loin du journalisme. Et c'est parce qu'il a un instituteur qui a repéré qu'il était sortait un peu du lot, qu'il avait une certaine intelligence et une curiosité importante, qu'il a pu poursuivre ses études, parce que c'est lui qui a dit à ses parents qu'il fallait vraiment qu'il poursuive ses études et sa scolarité. Quant à son amour du journalisme, en fait, c'est par le biais du sport, en fait, que c'est venu à lui, parce qu'il écoutait les matchs de rugby à la radio et il suivait ça avec une passion folle. À la fois pour le sport en lui-même, mais aussi pour tous ces hommes, surtout hein, à l'époque, qui commentaient le sport, qui commentaient les matchs et qui arrivaient à faire vivre l'intensité d'un match par les ondes de radio. Donc en fait, c'est comme ça qu'il s'intéressait au journalisme. Il s'est dit un jour, moi aussi, je serai de ceux-là avec mon micro au bord du terrain à raconter ce qui se passe dans le monde de l'Ovalie et avec les joueurs, les grands joueurs des équipes nationales ou locales aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui lui a mis le pied à l'étrier du journalisme.
Moi, de son enfance, il m'avait donné deux trois indications. Peut-être que tu le savais aussi, mais on avait été ensemble avec Joël du côté de l'île de Ré. En fait, je l'avais laissé au pont de l'île de Ré, puisque il avait une maison familiale à la flotte en Ré, et il m'avait montré, tu vois, là-bas, mon grand-père. Donc je ne sais plus si c'était du côté de sa mère ou de son père, mais mon grand-père était pêcheur du côté de la Vendée, donc tout ça. Donc il me montrait les côtes vendéennes à vue d'œil, et c'était même ça l'avait fait. C'est ce côté humain peut-être qu'on retrouvait chez lui parfois dans ses rencontres, etc. Mais au niveau, allez, j'allais dire de l'agriculture, de la pêche, voilà, il avait toujours ce côté passion. Il aimait raconter, et il aimait même raconter sur lui parfois quelques anecdotes. Moi, il m'en a partagé quelques-unes en voiture quand je le véhiculais sur des lieux de reportage.
Un mot sur ses débuts dans le métier. En 1968, Joël est diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, l'une des meilleures de France, et il commence, vous avez évoqué le sport, il commence au journal L'Équipe, avant d'être rapidement embauché fin 68 par le quotidien Sud-Ouest. Il y franchit petit à petit toutes les étapes avant de devenir directeur de la rédaction en 1993. Il y signe notamment des éditos qui ont marqué des milliers de lecteurs. Hein.
Quand j'ai fait mon premier stage à Aki en 2017, ma grand-mère et ma mère en fait connaissaient le nom de Joël Aubert à travers justement ces éditos dans Sud-Ouest, que mes grands-parents du côté de ma mère étaient des abonnés de Sud-Ouest et des lecteurs habitués, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Joël Aubert pour mon premier stage à Aki, ma mère m'a dit: mais attends, mais ça me dit quelque chose ce nom. Et puis en fait elle cherchait dans ses vieux journaux qu'elle avait encore à la maison, elle disait: mais oui, c'est ça, c'est lui qui signe les éditos. Et elle me disait déjà que pour ses parents à elle et pour elle, c'était quelqu'un qui avait marqué en gros par son écriture sa génération et la génération de ses parents.
C'est vrai ce que dit Johan, que effectivement, même encore aujourd'hui, quand on va faire des reportages, même si voilà, on a la casquette d'Aki, et puis Joël était très attaché à ce que désormais ce soit Aki, qu'il soit reconnu à travers son nom, et peut-être un peu moins Sud-Ouest, mais bon, ben voilà, avec la carrière qu'il y avait fait, c'était bien normal que les gens pensent à Sud-Ouest. Donc même quand on va faire des reportages, encore aujourd'hui, moi c'est assez régulièrement que quand j'expliquais ce qu'est Aki et qu'il avait fondé, on me disait: ah mais oui, Joël Aubert. Joël Aubert, il faisait des éditos dans Sud-Ouest. Donc effectivement, c'était une plume, comme on dit.
Si je peux ajouter quelque chose, Jean, effectivement, moi je vous rejoins. Joël, c'était l'édito de Sud-Ouest, mais même au-delà, j'allais dire, de la zone géographique où rayonne Sud-Ouest, puisque moi je suis plus du nord de cette nouvelle grande région, et même au-delà, du côté de Poitiers, moi j'ai plusieurs confrères qui m'ont dit que les éditos de Joël, ils les connaissaient, et puis même encore aujourd'hui, Joël et l'édito, c'était son exercice, et jusqu'au dernier instant, quoi.
Alors en 2001, Joël Aubert quitte Sud-Ouest, et deux ans plus tard, il crée Aki, qui est au départ un mensuel, et qui devient en 2007 Aki.fr. Sauf erreur, il s'agit alors du deuxième pure player d'information à voir le jour en France. Ce sont ces journaux exclusivement en ligne. Il fallait être sacrément visionnaire pour se lancer dans une telle aventure. À l'époque, il n'y avait pas encore de modèle qui se détachait.
Ça a été une rencontre de la vie. Il a rencontré à ce moment-là Jean-Baptiste Rey, qui lui était informaticien, qui n'y connaissait rien aux médias. Joël connaissait les médias, mais ne connaissait pas le monde du numérique et de l'informatique. Et c'est cette rencontre de ces deux personnages qui ont fait que Aki.fr a vu le jour.
Il connaissait pas le monde du numérique et de l'informatique, parce que en même temps, à cette époque-là, finalement, peu de monde avait imaginé la presse sur ce nouveau support, dans cette idée du partage de l'information. D'ailleurs, c'est toujours le slogan d'Aki, on peut le voir sur le site internet, le partage de l'information au sens où les journalistes livrent l'information et la donnent au lecteur qui peut en faire un retour plus facilement via le site internet. Alors, il y a eu parfois un peu des dérives avec les commentaires sous les articles dans la presse en général, pas particulièrement sur Aki, mais c'était quand même pour lui quelque chose d'important, ce support numérique. C'était l'ouverture d'un nouveau type d'échange avec le lecteur. Et c'est pas surprenant qu'il ait pensé ça, parce qu'effectivement, Joël, l'échange, c'était un peu la base de la discussion, voilà, connaître les gens, c'était son moteur, et faire ça avec des lecteurs, c'était un peu le Graal, quoi.
Joël était l'un des précurseurs, effectivement, dans ce côté pure player, et c'est surtout, en fait, aujourd'hui, Aki.fr est l'un des derniers pure players locaux encore, j'allais dire vivant aujourd'hui, encore en place, parce qu'effectivement, le modèle économique, etc., c'était compliqué. Mais je pense que ce lien avec le lecteur, c'est très important. Et il a réussi même à prendre, puisque c'était régional au départ, l'Aquitaine. Et aujourd'hui, on essaye de couvrir quand même l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Au-delà de cet échange et de cette proximité, en créant Aki, quelle était la volonté de Joël Aubert ?
Il était précurseur et novateur sur l'utilisation du support numérique, l'Internet. Mais en créant Aki, il y a aussi quelque chose de novateur sur la ligne éditoriale qu'il a voulu mettre en place, parce que dès le début, il avait cette idée finalement de quelque chose qui est assez nouveau. Qu'on appelle maintenant le journalisme de solution, c'est-à-dire un journalisme qui montre les trains qui arrivent à l'heure, comme il aimait à le dire. Mais ça, Joël, il a eu ce sentiment et cette envie, en fait, dès la création d'Aki, c'est-à-dire dès 2007, à une époque où, dans la presse, entre guillemets, classique, on surfait beaucoup sur les faits divers, sur la dénonciation des problèmes, mais sans forcément toujours chercher derrière à mettre en avant les initiatives constructives qui peuvent en découler. C'est-à-dire que dans la volonté de Joël, il a créé Aki, donc pour montrer ces fameux trains qui arrivent à l'heure, les initiatives sur le territoire, les initiatives des citoyens, les initiatives des politiques et des élus, parce qu'ils peuvent en avoir. Voilà, on partait pas du principe que en politique tout le monde est pourri, déjà, ce qui est peut-être que parfois un peu original. Voilà, dans l'esprit d'Aki, c'était vraiment mettre tous les projets nouveaux en avant, tout ce qui peut apporter des solutions, d'où le journalisme de solutions. Et quand il y a des choses qui vont pas, l'idée c'était pas de ne pas en parler, parce que on n'était pas là pour nier la réalité, on est journaliste, mais d'essayer surtout derrière de montrer les initiatives qui peuvent faire que de quelque chose de négatif, on va en faire quelque chose de positif. Mettre en avant les réflexions que tel ou tel problème peut susciter, et voir comment on peut tenter de résoudre ces soucis, quoi. c'était vraiment voilà une idée du journalisme de solution et en ça aussi c'était novateur à l'époque.
Je vais même compléter en disant que dès la création en 2003 du mensuel Acquis, c'était déjà son idée, puisque quand on feuillette les numéros qui ont été édités, il n'y a aucun moment du fait divers. On est vraiment dans ce déjà là, au départ dans ce journalisme de solution.
Très bien. Au fil des années, quels ont été les principaux écueils pour Acquis puis pour Acquis.fr?
Alors les écueils, c'est comme le disait tout à l'heure, je crois, Julien, il y a l'écueil principal, c'est le modèle économique de la presse numérique, c'est-à-dire savoir si on veut une presse, avec Internet, à l'époque où ça a été créé, Acquis, tout était gratuit. Ça a été un peu le défaut de base d'Internet, si on peut dire. C'est que tout ce qui a été créé sur Acquis a été mis à disposition facilement, gratuitement, à tout le monde. Et une fois qu'on est dans ce présupposé-là, c'est difficile d'en sortir. Or, quand on veut faire vivre un média avec des journalistes qu'il faut rémunérer, l'information, ça se paye, c'est compliqué quand on est gratuit. Donc ça, c'est un écueil qu'a connu Acquis et que d'une certaine manière, qu'on est toujours Acquis. Hein, ça n'a pas changé pour ça. Mais malgré tout, on est toujours là. C'est le principal frein. Après, quand on veut se développer à l'heure de la grande région, en étant géographiquement nos frontières aussi de médias, c'est pareil, ça reste difficile quand on a peu de moyens de financement. Donc l'aspect financier économique, c'est effectivement l'écueil principal d'Acquis, mais pas uniquement. C'est une question qui est délicate pour beaucoup de sites, de médias en général d'ailleurs, et de médias sur Internet en particulier, et quand ils sont gratuits, encore plus.
Pour rejoindre ce que disait Solène, au niveau du gratuit, Joël avait essayé de mettre en place un Acquis Bordeaux Métropole. Donc comme son nom l'indique, c'était sur la métropole bordelaise. Et là-dessus, on avait un modèle qui était un peu payant. C'était un essai donc de 2015 à 2018. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'on refasse sur du gratuit. Est-ce que les gens sont prêts à payer sur Internet? Pourquoi? Pour quel modèle? C'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Financer un titre de presse gratuitement en ligne, c'est pas facile de trouver la balance, et c'est effectivement l'un des principaux écueils auxquels se confronte encore aujourd'hui Acquis.
Et après, à l'inverse, faire passer des gens qui étaient habitués à la gratuité à un modèle entre guillemets Mediapart, enfin, ce que j'appelle le modèle Mediapart par abonnement, c'est peut-être aussi d'autant plus compliqué quand on a été habitué à la gratuité.
Même si tout n'a pas été simple, on l'a compris, hein, 13 ans après sa création en tant que pure player, Acquis ne cessait d'être une satisfaction pour Joël. Qu'est-ce qui le rendait particulièrement fier selon vous?
Il était déjà fier qu'Acquis existe et que Acquis existe toujours. Et il était fier aussi de pouvoir, à travers Acquis, mettre en avant ce journalisme de solution dont je parlais tout à l'heure, sans être un journalisme militant. Hein. C'est pas pareil non plus. Donc il était fier de ça. Il était fier de ses équipes, je crois, de ceux qui travaillent actuellement, mais aussi de tous ceux qui y ont travaillé avant, et ils sont très très nombreux, parce que Acquis.fr, c'était un lieu de formation, c'est toujours un lieu de formation quelque part, parce que ça faisait partie des grands dadas de Joël que d'être un passeur de son métier, c'est-à-dire de recevoir de nombreux stagiaires ou jeunes journalistes au sein de l'équipe d'Acquis, et de les former un peu selon sa vision du métier, et avec toutes les qualités qu'il pouvait avoir en termes d'humanisme, de bienveillance, mais quand même de lucidité et de il y avait pas de naïveté quoi chez Joël non plus. Donc ça c'était une grande fierté de Joël que il parlait souvent de la petite équipe d'acquis, mais c'est ce qu'on disait dans notre papier sur acquis pour annoncer son décès. On est plutôt une grande famille à acquis parce qu'on est très très nombreux à être passés par là, et il y a des journalistes maintenant qui travaillent un peu partout en France et qui ont quelque chose en eux de non pas de Tennessee mais de Joël Aubert quoi. C'est ça, je pense que c'était une fierté aussi d'être un peu un patriarche, formateur, passeur du métier de journalisme, du métier du journalisme qu'il aimait tant.
Ben la transmission faisait partie des choses qui animait Joël au quotidien aussi, en recevant des stagiaires, en les voyant évoluer, en leur confiant des missions et des sujets, voilà, en leur donnant sa confiance pour leur permettre aussi de grandir et de les voir grandir. C'était quelque chose de très important pour lui.
Jean, je crois que vous savez que je suis un peu dans l'anecdote. Moi, j'allais dire que ici autour de la table, on est quasiment tous passés par le côté stagiaire et pédagogue de Joël, hein. On a tous été à la même école, entre guillemets. Moi, je me rappelle d'une rencontre, c'était en 2012, en fait, avec lui, pour une proposition de stage à l'époque, puisque j'ai fait mon premier stage en janvier 2013 à Aki. Et effectivement, il y a eu cette volonté de transmettre et d'apprendre, en fait, aussi de la part du stagiaire. Et puis aujourd'hui, ce qui fait que on est tous allés autour d'une table et à vouloir poursuivre et continuer ce journalisme de solution qui nous a tant enseigné.
On est tous 100% acquis et 100% Joël Aubert ici.
On devient militant là.
Ouais. Ouais, c'est le moment ou jamais.
Sa fille Amélie me confiait que le grand-père maternel de Joël était gardien de phare sur l'île de Ré. Enfant, Joël aimait l'accompagner pour allumer la flamme qui guiderait les bateaux. En créant Aki, Joël a lui-même montré la voie à de nombreux autres pure players en Nouvelle-Aquitaine, qui sont d'ailleurs pour beaucoup nos partenaires avec Podcastine. Ce n'est pas un hasard si rue 89 Bordeaux lui rendait hommage en évoquant un héros girondin du journalisme de proximité. Et ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard non plus si notre région est l'une des plus dynamiques en termes de médias en ligne de proximité. Il a montré la voie d'une certaine manière.
Oui, c'est sûr que quand on a un acteur comme Joël Aubert et Aki, en tout cas Joël Aubert qui ose et qui se lance sur le média numérique qui était un peu terra incognita pour pas mal de monde dès 2007, et puis qu'on voit que ça marche, après tout, qu'il y a quand même des lecteurs qui s'intéressent, que voilà, on est toujours là tant de temps après, c'est vrai que ça peut être inspirant pour d'autres de se dire ben après tout suivant son sillon quoi, tout en étant différent, c'est tout l'intérêt de la pluralité des médias qui sont présents dans l'Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine. Disons-le, Joël Aubert est effectivement sans doute une sorte de modèle. Alors directement pour ceux qu'il a formés et ceux avec qui il a travaillé, mais globalement pour les journalistes et le monde médiatique local, et au-delà d'ailleurs. Mais oui, après tout, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, de nouveau et d'intéressant, c'est pas illogique que ça donne envie à d'autres de faire non pas la même chose. Hein, y a pas du tout de critique dans ce que je dis, c'est pas du tout du copier-coller, hein. Au contraire, c'est très enrichissant, mais c'est pas étonnant effectivement qu'on veuille poursuivre un peu cette voie-là sur le numérique.
À la mort de Joël Aubert, les hommages ont été multiples et surtout unanimes. Tout le monde a salué un immense journaliste, mais aussi un homme très bienveillant. Comment se caractériser cette bienveillance? Pourquoi a-t-il tant marqué les jeunes générations en particulier?
En fait, c'est assez étrange. Enfin, là, je vais prendre mon exemple personnel. Quand je l'ai rencontré sur le premier stage, Déjà, quand je suis arrivé dans le bureau, bon, j'avais vu Julie qui m'a dit, ah, il est dans le bureau juste derrière, vous pouvez aller le voir, on se vous voyait encore à l'époque. Et en fait, je suis rentré dans le bureau et j'ai vu ce grand monsieur tout sourire, au-delà de sa carrure qui était quand même, il était assez élancé, assez grand. C'est quelqu'un qui avait une aura particulière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il dégageait, je le trouvais hyper chaleureux, en fait, quand je me suis installé. J'ai vite accroché au personnage et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là à avoir été absorbé par cette espèce de chaleur humaine, de cette figure paternaliste, d'une gentillesse incroyable. Et puis, et en plus de ça, c'est un puits de science. L'entretien, j'en avais déjà discuté avec d'autres confrères et consoeurs, on a parlé 10 minutes de boulot et après c'était il me racontait sa première expérience sur un match de rugby France-Roumanie à l'époque à Lille quand il était encore étudiant, qu'il avait réussi à s'inviter au stade et qu'il voulait à tout prix vendre son papier. Il nous racontait aussi ses histoires, alors c'était dans l'ancien bloc communiste, il me semble que c'était dans les Balkans à la fin des années 80, début 90, où comment ça commençait un petit peu à être chaud là-bas et que lui s'était retrouvé au milieu de tout ça avec quelques confrères. C'est au-delà de la chaleur qu'il dégageait, c'est quand il parlait, on avait forcément envie de l'écouter. Et je me souviens de tous les stagiaires qu'on était à ce moment-là, on était bouche bée devant ce qu'il nous disait. L'histoire qu'on a appris à l'école ou quoi, et on se rend compte qu'il y a certains des passages, il nous les raconte comme il y était, et ça c'est hyper intéressant pour nous. Et puis on se dit après, ouais, moi je vais être pareil, je vais être à ces bons endroits au bon moment, ou enfin. Peut-être une façon de parler, mais ouais, c'est quelqu'un de très inspirant en tout cas.
La bienveillance se caractérisait déjà dans son physique, c'est peut-être, mais quand on vous regarde tendrement et forcément, comme disait Johan, c'est vrai que la première impression quand on rencontrait Joël, c'est quand même se dire, ah ben c'est quelqu'un de gentil. Bon, et a priori, les gens préfèrent les personnes gentilles que les personnes méchantes. Donc c'était déjà un atout. Et après, effectivement, il savait marquer les jeunes, comme l'a dit Johan, parce qu'il avait une expérience de fou, donc il pouvait vous raconter des anecdotes à l'appel. Il pouvait, et puis toujours avec bienveillance, je me répète, mais même s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans vos papiers ou dans la manière dont vous les avez écrits, c'était jamais une critique cassante, quoi. Ça allait être quelque chose du genre, ah ben tu pourrais peut-être le tourner comme ça, ou est-ce que tu es sûr que, ou voilà, c'était plus c'était vraiment du conseil et pas de la pas de dire ben non c'est mauvais, il faut tout recommencer, quoi. C'était plutôt vraiment sous le ton du conseil et encore une fois de la bienveillance, c'est-à-dire je te conseille ça parce que ce sera mieux pour toi, pour ton papier, et non pas je te conseille ça parce que ça colle pas du tout avec la ligne éditoriale d'acquis et que ça ne me plaît pas, point.
Joël, c'est un côté aussi paternaliste avec nous tous, voilà, toujours à vouloir nous faire grandir et évoluer dans nos métiers, quoi.
Oui, là autour de la table, vous avez ma petite Solène, mon petit Johan, mon petit Julien et ma petite Julie, quoi. Déjà, c'est pareil, ça. Voilà. Ça pose un ton.
Ouais, j'allais rajouter au niveau de son charisme, parce qu'effectivement, Johan disait qu'il dégageait quelque chose. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué la première fois que je l'ai vu. Bon, avec le petit quart d'heure habituel, puisque Joël était ponctuel, mais pas tellement en fait, mais et donc je l'avais attendu, je ne savais même pas à quoi il ressemblait physiquement puisqu'on s'était entretenu au téléphone avant, et en fait, en le voyant arriver, j'ai tout de suite deviné que c'était lui. Bon, déjà il avait un tas de journaux sous le coude et puis son béret on m'avait dit qu'il en portait souvent un. Donc voilà, bon. Et puis Joël, je sais pas, quand on le rencontre, on se rappelle de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il nous dit, et on se rappelle de lui, tout simplement.
Je pense que dans les rapports et les relations qu'il avait avec chacun, notamment les jeunes journalistes, il encourageait, entre guillemets, leur vocation, si on peut dire, aussi en s'appuyant sur leur propre qualité d'abord et leur propre centre d'intérêt, et d'abord les faire aller vers ce vers quoi ils aimaient, où ils avaient envie de parler, pour essayer après d'élargir un peu le champ du travail de journaliste, parce qu'on ne fait pas que ce qu'on aime quand on est journaliste. Mais je pense qu'il y avait un peu de ça aussi, quand Johan parle de sa première rencontre et qu'il lui a parlé de sport, ben c'est pas innocent quand on connaît Johan. Moi j'avais fait des études de droit européen avant, pas grand chose à voir, et on a pas mal parlé d'Europe, et un des premiers sujets qu'il m'a confié, alors je sais plus si c'était lors de mon stage, parce que comme tout le monde j'ai commencé par un stage à Kiev ou un petit peu plus tard, c'est d'aller au Parlement européen à Strasbourg rencontrer des députés européens. Ça vous donne envie de continuer le métier quand même. Voilà, ce genre de choses.
Pour confirmer ce que disait Solène, il était curieux de tout. Effectivement, moi, il m'avait parlé des Girondins de Bordeaux, alors qu'effectivement, son sport, c'est plutôt le rugby, même s'il a suivi les Girondins et qu'il allait en tribune quand il était au Grand Quotidien, comme il aimait le dire. Mais voilà, c'est sûr qu'il s'adapte. Moi, il s'intéressait à ce qui se passait à Poitiers. C'est aussi quelqu'un de régional, c'est-à-dire qu'il s'est imprégné de cette grande région, et avant il s'imprégnait de l'Aquitaine et il s'intéressait. Moi je sais que je lui ramenais souvent un petit broyer du Poitou qu'il avait apprécié, puisque sa fille Marie avait été en poste à la préfecture à Poitiers, et donc il avait découvert cette spécialité, et à chaque fois je lui en ramenais parce qu'il aimait bien. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il s'intéressait au territoire, aux gens, à notre région, et ça aussi ça joue. Et il avait une culture immense parce qu'il pouvait parler de tout.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain.
Alors parmi les hommages que j'évoquais, il y a celui de Jean-Marie Dupont, ancien président de la Société des rédacteurs du Monde, qui distinguait chez lui deux qualités essentielles pour un journaliste, une grande capacité d'émerveillement et une grande capacité d'indignation. Jean-Marie qui met aussi en avant avec beaucoup de tendresse un petit côté Pierre Richard chez Joël, capable d'oublier des papiers très importants dans sa chambre d'hôtel en reportage à Moscou. Ça vous parle aussi cet aspect-là de sa personnalité ?
Tellement. J'aurais tellement d'anecdotes à raconter sur son côté Pierre Richard, voilà, de l'oubli de téléphone portable, de chargeur au bureau, à l'oubli de clés. Bon, ça fait partie du personnage.
Moi, je crois qu'à propos de téléphone portable, nous avons roulé quelques kilomètres avec un téléphone sur le toit de la voiture. Il était toujours là quand on s'en est aperçu. Après, effectivement, oui, c'était quelqu'un de détourdi par moment. Quand il était fatigué, il était d'autant plus. Sur ce qui est de la faculté d'émerveillement, oui, c'est ce que disait aussi Julien juste avant. Enfin, parce qu'il était émerveillé de tout, que finalement, il s'intéressait à tout. Si quelque chose ne lui avait pas plu, il aurait fait comme tout le monde, il s'en serait détourné. Lui, tout l'enchantait. À peu près toutes les personnes qu'il rencontrait, il trouvait chez eux quelque chose auquel s'accrocher et s'intéresser. Oui, voilà, il s'émerveillait autant des gens que de la nature aussi. Il a fait de beaux éditos, c'était sur Aki, les humeurs saisonnières. Il a fait de beaux éditos sur la contemplation de la nature, au mois de février, au mois de décembre, à Noël, tout ça. Oui, capacité d'émerveillement, on peut pas le nier. Et l'indignation aussi. Moi, je l'ai peut-être moins vu, mais c'est vrai que quand quelque chose agaçait, voilà, ça l'agaçait, et puis il se balançait sur ses pieds là, la moustache, comme je disais au début, qui montrait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il savait passer à autre chose quand même, j'ai l'impression. C'est pour ça que je retiens plus l'émerveillement, mais l'indignation, forcément, quand on est des fois journaliste, on est face à des situations qui nous déplaisent, donc voilà, Joël aussi. Et mais il savait faire avec, il savait comment dire. Ça rejoint peut-être le côté journaliste du positif. Il savait du coup essayer de chercher les solutions ou les gens qui pouvaient faire en sorte que son indignation soit un peu apaisée en se disant que il y a des choses qui vont pas, mais il y a des gens qui essaient de faire en sorte que les choses qui ne vont pas s'améliorent. Voilà, dans ce sens-là. Mais effectivement, il pouvait s'indigner, bien sûr.
Et peut-être pour illustrer ton propos, Solène, on peut parler, tu sais, de moi, il m'avait expliqué la Nationale 10 qui passait par son village, Cavignac, et son combat avec la sécurité routière, le combat pour cette déviation, et aujourd'hui, ce qui est la Nationale 10, cette deux fois deux voies qui passe en dehors de Cavignac, et son implication auprès de la sécurité routière, auprès de l'opération Casse pas ta vie. Moi, je sais qu'il m'en avait parlé en voiture. C'était encore un sujet qui allait bien au moment où il en parlait, et il m'en avait discuté. Il était très indigné au départ, et en fait, il a trouvé une solution et pour justement aller répondre à cette indignation. Et il se battait. Oui, il était indigné, mais il était indigné et il cherchait des solutions au problème. D'où le journalisme de solution, je pense.
Une indignation comme un moteur, alors, à ce moment-là, oui. Un peu comme aussi parmi les combats qu'il a eus, entre guillemets, c'était sur la protection du littoral. Et sa manière de combattre, ça a été en faisant son métier et en allant faire des papiers sur les gens qui, justement, combattaient pour que la loi Lamiaka, c'est-à-dire la loi qui protège le littoral de construction, voilà, soit voté et que mette en avant, lui, par son métier de journaliste, des acteurs qui avaient permis cette protection de l'environnement de la côte.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. De la mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées.
Alors, quelques mots avant de conclure cet épisode. D'abord, aujourd'hui, que va devenir Aki ? Il est certes un peu tôt, mais la question se pose évidemment pour vous, pour vos lectrices et pour vos lecteurs.
Alors, effectivement, il est un peu tôt. mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, en tant qu'équipe de rédaction, on est toujours là et combatif et on va poursuivre notre métier parce que Joël ne l'aurait pas entendu autrement. Aki va se poursuivre. Enfin, on est effectivement dans une période un peu de transition. Il va y avoir des choses qui vont changer puisque le président de la société Aki est décédé. Donc forcément, de ce point de vue-là, il va y avoir des choses qui vont changer. Ça va sans doute entraîner d'autres modifications sur Aki. Mais le but et l'objectif de tout le monde, que ce soit les journalistes ou même des associés, c'est bien qu'Aki poursuive son chemin. Parce que en soi c'est un média qui est intéressant et qui mérite de vivre, et que en plus c'est le projet de Joël et qu'on a tous à cœur de faire vivre la mémoire de Joël et ce journal auquel il tenait tant. Donc ça, c'est certain qu'on va pas laisser tomber et que Aki ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Après, pour ce qui est plus précisément des modalités éventuelles de changement qui pourraient intervenir ou pas, c'est bien sûr trop tôt pour en parler. Il y avait même des projets que Joël avait qui pourraient se mettre en place bientôt. Mais voilà, tout ça c'est un peu tôt. Mais Aki restera, et il restera le plus longtemps possible, et avec en acceptant tout le soutien possible des acteurs autour de nous, bien sûr.
Enfin, et c'est sans doute ma question la plus difficile, je vais vous demander ce qu'il vous restera de Joël Aubert. La transmission lui était si chère, quelles valeurs vous resteront tout particulièrement ?
Moi, je pense que c'est l'humanisme de Joël, le côté humain. Effectivement, il s'émerveillait de tout et surtout, en fait, des humains, de ses rencontres avec les gens. Moi, je l'accompagnais sur plusieurs lieux de reportage et c'est ce que je vais en retenir. Moi, je faisais de la vidéo pour Aki et même si Joël n'était pas un homme de la vidéo, en fait, il restait un journaliste, un très bon intervieweur. Et quand on lui passait le micro, eh bien, il y avait ces moments de vie que j'ai immortalisé en filmant avec lui, et ça c'est ce que je vais retenir de lui, ces moments de vie, ces échanges avec des personnes qui ne voyaient pas forcément le bout du tunnel, puisqu'ils se lançaient parfois en agriculture et c'était compliqué, on le sait, on le voit souvent, mais en fait, ils participaient à leur bien-être, ce petit sourire. Moi, je me rappelle avoir été en reportage un 1er mai, voir des gens en fait qui était un peu mitigé parce que ils tâtonnaient, ils ne joignaient pas les deux bouts, et en fait on leur a apporté un peu de bonheur et ils nous ont livré ce bonheur, et c'est aussi ces moments de partage et d'échange qu'il arrivait à faire naître, à mettre en ambiance dans les reportages et qui se retranscrivaient sans doute dans ce qu'il écrivait après.
Alors, l'humanisme, effectivement, c'est le mot je pense qui est sans doute revenu le plus, même dans les hommages sur les réseaux sociaux en parlant de Joël. C'est vrai que c'est la qualité qui ressort le plus. On peut aussi retenir du point de vue plus professionnel vraiment sa passion pour le métier de journaliste et pour le journalisme en général. Lui, il avait ça chevillé au corps et à l'âme. C'était vraiment une passion, et une passion donc pour les gens qui rejoint le côté humanisme, une passion lui qui lui permettait d'assouvir une très grande curiosité. C'est peut-être le troisième mot qui me viendrait à l'esprit. Humanisme, passion et puis curiosité insatiable, quoi. Toujours vouloir aller voir ce qui se passe, aller rencontrer des gens, comme vient de le dire Julien, savoir pourquoi ils sont dans tel projet, comment ils comptent faire, qu'est-ce qui les a menés là, mais tout ça effectivement dans une manière d'interviewer les gens qui était presque plus de l'ordre de la discussion, mais toujours très pertinente à la fin pour avoir quelque chose qui se tient parfaitement du point de vue journalistique, quoi.
Moi, je compléterais avec bienveillance et amour des gens. Alors, ça rejoint ce que disait tout le monde, mais et on le voit à travers tous les hommages qu'il y a eu, c'est que quelle que soit la personne, il a donné de la bienveillance et de l'amour aux gens, et il a laissé une trace, quelle que soit la rencontre qu'il a pu faire dans sa vie, et quelle que soit la personne que c'était, que ça soit un stagiaire ou un politique ou n'importe qui, en fait, quand il passait par là, on s'en souvient.
La passion, la curiosité, l'humanisme, la bienveillance, ça c'est sûr, ça le définit bien. Après, c'est quelqu'un, je trouve, qui avait vraiment foi en la jeunesse. Enfin, tant qu'il arrivait à transmettre ses valeurs et que nous on était réceptifs à tout ça, à cet humanisme, à cet altruisme un petit peu, et puis ce petit morceau de sa personnalité qu'il essayait de nous inculquer, c'est vraiment quelqu'un qui avait grande foi en la jeunesse. Puis on le voit par le nombre de jeunes, enfin là nous compris qui avons commencé ici, enfin on s'en amusait même pendant une période avec Julie qui avait imaginé un slogan, allez à qui votre avenir est réussi, je crois que c'était quelque chose comme ça que tu disais, Julie. Et ouais, c'est cette passion qu'il arrivait à transmettre à tous ces jeunes qui débarquaient dans son bureau, dans son équipe. C'est aussi quelque chose qui font ce qu'il est aujourd'hui, enfin qui marque beaucoup en fait. Au-delà de cet humanisme, cette bienveillance, cette passion, cette curiosité, ouais, il y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Enfin, on est une société très vieillissante qui fait confiance en la jeunesse pour lui faire faire ses premiers pas comme lui le fait en tout cas. Enfin, nous accompagnant, nous prenant vraiment par la main. Et ça, c'est quelque chose. Qui le caractérise aussi très bien, je trouve.
Avant de conclure cette émission, j'aimerais simplement ajouter un mot à titre personnel, dire quel plaisir j'ai eu à fréquenter Joël dans les dernières années de sa vie et à constater surtout son amour inextinguible et renouvelé pour la presse et pour l'avenir de celle-ci. Il aura été le premier à qui nous avons demandé d'être partenaire de podcasting et le premier à accepter avec un grand enthousiasme et en nous donnant des conseils très précieux. Nous l'en remercions du fond du cœur. Merci aussi à ses filles, Amélie et Marie, qui nous ont aidés à préparer cette émission et ont choisi les musiques qui nous ont accompagnés. Nous pensons bien à elles et à leur leur famille. Enfin, un très grand merci à vous quatre, Julie Allot, Johan Dénéchaud, Solène Méric et Julien Privat. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de très belles aventures à vous et à toute la grande équipe d'Aki.fr. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.